Michel Serres, bonjour.
Bonjour.
Michel Serres, la semaine dernière, nous parlions de l'émotion et vous nous disiez qu'elle se lit sur le visage et que le Botox, en figeant le visage, peut nous rendre moins sensibles à l'émotion. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que vous avez choisi et qui me plaît bien. À quoi ça sert? Combien de fois le disons-nous chaque jour? Et ça n'est pas réservé aux enfants, ni à Edith Piaf d'ailleurs qui chantait si bien « À quoi ça sert l'amour », vous vous souvenez. C'est la marque de l'une des plus grandes qualités de l'espèce humaine, la curiosité. À quoi ça sert le travail? À quoi ça sert l'argent? À quoi ça sert les yeux? Enfin, c'est sans limite. Et comme il y a le site célèbre commentçamarche.net sur le web, est-ce que vous allez lancer à quoi ça sert.fr, Michel? Et puis pourquoi? Enfin, à quoi ça servirait?
Merci beaucoup de poser la question. À quoi ça sert? En effet, on entend partout ce refrain presque jusqu'à la nausée. À quoi sert de lire la princesse de Clèves, à quoi sert la littérature, à quoi servent la poésie ou la culture, etc. Eh bien, ça ne sert à rien, en effet, et rien autour de nous ne correspond à ça, en effet. Il faut être armé pour ce monde-ci. C'est toute la question, c'est-à-dire bafouiller en mauvais anglais et être surtout au courant des dernières techniques. Le malheur, c'est que les dernières techniques, évidemment, sont désuètes dans quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Alors la figure de celui qui se débrouille bien me paraît être, pour commencer, le bricoleur. Alors je voudrais définir le bricoleur. Il est finaud, il est adroit comme un chat, il répare tout, il arrange tout, il fait de sa maison, même pauvre, un chef-d'œuvre de confort.
Quelquefois il casse tout, comment, il démonte tout.
Comment fait-il? Ben, c'est tout simple, il a deux choses. Il a premièrement une boîte à outils parfaitement complète, parfaitement adaptée, bien entretenue, mais surtout il a à sa disposition, derrière la boîte à outils, un invraisemblable fouillis de vieux cartons, de boulons à demi rouillés, des bouts de bois de toutes sortes, des cuirs, des fers. Vous connaissez ça, cette
espèce. Je suis bricoleur.
Voilà. Eh bien, ce bricoleur-là, il tire comme un prestidigitateur de son chapeau, le mot en venu, il tire la chose qui va vous tirer d'embarras.
La solution.
Comme un miracle, la solution. Et d'où il attire en général, dès ce que j'appellerais volontiers sa réserve chiffonnière. C'est-à-dire, elle est pleine de choses qui sont pratiquement inutiles et dont on rit volontiers.
Et qui ne servent à rien.
Et qui, à un certain moment, sont la chose indispensable en cas de pépin.
Alors, vous pouvez me ramener à la littérature?
Alors, je vais vous ramener plutôt aux sciences. C'est-à-dire que j'ai un collègue à l'Académie des sciences que j'admire beaucoup et dont j'espère bien qu'il aura un jour le prix Nobel, qui s'appelle Miroslav Radman, qui est le premier croate à pénétrer sous notre coupole, et qui a fait une invention récemment qui me paraît prodigieuse. Vous savez sans doute que les bactéries morbides mutent à toute vitesse en présence des antibiotiques. Et c'est cela qui nous met en danger en cas d'épidémie soudaine. Eh bien, comment mutent-ils? Eh bien, on pensait depuis toujours qu'ils mutaient, ou qu'elles mutaient, ces bactéries, par hasard, de façon aléatoire, de façon inattendue et imprévisible. Eh bien, non. Eh bien, pas du tout. Monsieur Radman a découvert, en effet, que l'ADN bactériel, dans ces cas-là, était muni, ben, un peu comme un bricoleur, il était muni de ce qu'il appelle des régulons SOS, c'est-à-dire des tas d'objets qui leur permettent, en cas de situation mortelle, de muter à toute vitesse et de s'adapter à ces affaires-là. Et par conséquent, je ne voudrais pas qu'il soit vexé, mon collègue Miroslav Radman, mais je voudrais dire que l'admiration que j'ai pour lui, qui est énorme pour cette découverte, le fait ressembler un peu à cette figure du bricoleur.
La bactérie bricoleuse.
La bactérie est pleine de régulons SOS. Il appelle ça des régulons SOS. Eh bien, toute la question est de savoir si vous, personne privée, ou vous, personne publique, avez un panier SOS, avez un panier de bricoleurs. De quoi disposez-vous dans les cas de situations vitales difficiles, c'est-à-dire si votre femme vous quitte, si vous perdez votre emploi, si une occasion énorme vous tombe sur le dos positive, si vos ados d'enfants dérapent et viennent vous chercher un jour désespéré, si à 55 ans vous périssez de solitude, le jour où la retraite vous trouve désemparé, bref, dans les cas de crise vitale, de quoi disposez-vous? Et les patrons d'entreprise, et les secrétaires de syndicats, et les responsables, et les décideurs, et les professionnels, et les politiques, de quoi disposent-ils? Est-ce qu'ils ont des régulons SOS autour d'eux? Je veux dire des pensées, des hommes, des choses assez différenciées, assez disparates, assez inutiles temporairement pour s'adapter à toute vitesse à des événements imprévisibles. Est-ce qu'ils ont des paniers SOS?
Voilà, tout sert à quelque chose, peut-être et à un moment donné.
Peut-être et à un moment donné. Et j'ai même entendu dire que les sociétés les plus efficaces, les fourmis, les abeilles, et les spécialistes des sociétés animales, avaient découvert qu'il y avait des individus, fourmis, abeilles, etc., dont ils ne pouvaient pas dire ce qu'ils faisaient. Et c'est-à-dire, c'était quoi? Des artistes, c'était des moines, c'était des philosophes, etc. Ils ne servaient à rien. Et tout d'un coup, on se dit, mais est-ce que par hasard, dans ces sociétés-là, il n'y avait pas aussi des paniers SOS, c'est-à-dire des régulons SOS. Et tout d'un coup, je tombe sur l'enseignement, forcément. C'est-à-dire, l'enseignement vous donne un bagage. C'est un mot qu'on utilise beaucoup en langue française pour dire mes enfants ont des bagages, un bagage, absolument, etc. Eh bien, je suis l'homme de douane, si vous voulez, et je dis, ouvrez votre bagage. Eh bien, si dans votre bagage, il n'y a que des choses qui vous servent tout de suite, alors vous êtes foutu. C'est-à-dire, vous êtes condamné à terme, vous êtes prêt pour 6 mois, vous êtes prêt pour 1 an, mais vous n'êtes pas prêt pour le moyen terme,
n'oubliez
le
pas
long terme.
La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié.
Oui, mais c'est ce qui sert dans des situations imprévisibles. Vous voyez, et j'ai souvent été dans des discussions entre les patrons des grandes écoles et patrons d'entreprises, et les patrons d'entreprises disaient, vous formez des ingénieurs qui ne sont pas adaptés aux nouvelles technologies. Alors, on changeait le programme, oui, mais les nouvelles technologies étaient désuètes 2 ans
bien
après.
Sûr.
Alors, on a demandé aux patrons d'entreprises de faire le programme, ils n'ont jamais réussi.
Il faut former des têtes bien faites.
Et par conséquent, j'aime bien raconter l'histoire de Rudyard Kipling, qui part d'un moine solitaire qui se trouve en extase dans l'Himalaya, et tout d'un coup, à force d'être en extase, il voit en face de lui, à des kilomètres de là, un glacier qui commence à se détacher. Alors il descend dans le village et il dit, attention, un glacier sont en train de se détacher. Et tout le monde le prend pour un fou, évidemment. Et à ce moment-là, le village est détruit 6 mois après. Mais lui avait vu le glacier se détacher. Et par conséquent, je crois bien que toute la question est d'avoir dans son tablier une panier de régulons SOS. Et c'est comme ça qu'en effet, que la culture, la poésie, etc., sert beaucoup plus qu'on ne le croit et à des situations imprévisibles.
Michel Serres, merci. Retrouvez nos chroniques et leurs horaires sur france-info.com. Au revoir et à dimanche prochain.